Co-table.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découvert, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianzetto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode un peu particulier. En effet, cet épisode devait être enregistré dans le cadre de l'événement L'Appel du 18 juin, organisé par Écotable et les magasins La Récolte sur le futur de notre alimentation. Or, pour des raisons de Covid, je n'ai pas pu m'y rendre. Mais ce n'était que partie remise puisque nous voici aujourd'hui pour enregistrer cet échange qui se promet d'être passionnant sur notre agriculture, notre alimentation et ses enjeux. Quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, notre alimentation est un enjeu majeur dans la transition écologique, sociale et sanitaire. Elle représente de la fourche à la fourchette 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Elle est aussi la première cause de perturbateurs endocriniens du fait de l'utilisation des pesticides. C'est aussi la première cause de maladies cardiovasculaires, qui est elle-même la première cause de mortalité dans le monde par la consommation de produits trop carnés ou transformés. Par ailleurs, la production alimentaire intensive est elle-même source de pollution des eaux et des sols. Elle entraîne une désertification des sols ou encore une disparition du vivant et de la biodiversité. Alors une fois cela dit, que faire ? Comment mieux comprendre les enjeux liés à notre alimentation et devenir acteur du changement? La transition de notre modèle agricole vers un modèle plus résilient et respectueux de l'environnement semble plus que nécessaire. Pour répondre à toutes ces questions et essayer de réfléchir aux solutions existantes, je reçois deux invités de marque, Arnaud Daguin. Arnaud est le porte-parole de Pour une agriculture du vivant qui cherche à réaliser la transition agricole et alimentaire vers l'agroécologie. Mathieu Mullier, il est exploitant agricole et cofondateur de La Récolte, qui est un projet alimentaire et culinaire ayant pour but de redessiner les contours de notre modèle alimentaire. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Fanny.
Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter, Arnaud ?
Ben, je m'appelle Arnaud Daguin, je suis né en 1959 à Auch dans le Gers. Et voilà, je fais la cuisine dans ma vie, pas que ça, mais quand même pendant 45 ans, et avec tout le temps une question lancinante qui était et qui est toujours, qu'est-ce qu'un bon produit ?
Okay.
Parce que quand on nourrit les autres, on se pose quand même cette question en permanence, et c'est en essayant de répondre à cette question pendant une quarantaine d'années que je suis arrivé à cofonder une association, un mouvement qui s'appelle « Pour une agriculture du vivant ». Parce que j'ai commencé à comprendre, et je suis pas le seul, qu'un bon produit, c'est d'abord un produit qui sort d'un sol en bonne santé, de plantes en bonne santé, d'animaux éventuellement en bonne santé, pour rendre les humains en bonne santé, et donc faire des territoires en bonne santé. Voilà. On parle là d'une santé unique, quasiment.
Mathieu ?
Et donc, je m'appelle Mathieu Mullier, donc j'ai 38 ans, je suis papa, mari et... papa de trois enfants. Et j'ai deux métiers aujourd'hui qui m'amènent à venir échanger. C'est celui d'épicier avec les magasins La Récolte et celui d'agriculteur dans une ferme du Sud-Ouest.
Donc tu es vraiment agriculteur. Ça m'a surprise au début quand j'ai préparé ce podcast en me disant incroyable, c'est un épicier agriculteur.
C'est vrai. En vérité, c'était ma première intention de devenir agriculteur. Il m'a semblé que c'était beaucoup trop compliqué. Donc j'ai commencer par quelque chose qui me semblait plus accessible, c'est-à-dire monter un commerce qui permette de valoriser les produits d'une certaine forme d'agriculture. Et c'est dans un deuxième temps que l'aventure de la production est arrivée.
Ok, on va y revenir parce que ce lien entre bon produit et derrière la distribution de ce bon produit est essentiel. Je voudrais qu'on commence d'abord avec toi, Arnaud. Je sais que tu as travaillé et que tu travailles toujours sur la question de qu'est-ce que notre agriculture, qu'est-ce que l'agriculture. Et donc, je voudrais te poser cette question aujourd'hui. C'est quoi l'agriculture ?
Définir l'agriculture, c'est pas si simple. Sauf que quand tu as vraiment compris de quoi il retourne, c'est pas si compliqué que ça. L'agriculture, c'est de la production de biomasse. Voilà, ça se résume à ça, c'est que ça. Et c'est pas si simple.
C'est quoi la biomasse ?
La biomasse, c'est tout ce qui vit et qui est de la plante, du champignon, de l'animal. C'est ça la biomasse, c'est de la masse vivante. Donc c'est pas des cailloux, c'est pas des argiles, encore que on se pose des questions maintenant quand même sur le minéral aussi. Mais bon, voilà, c'est pas gazeux, c'est pas minéral, c'est animal ou végétal. En tout cas, l'agriculture consiste à faire produire au vivant le maximum de biomasse à notre utilisation, pour notre bénéfice. Et ce qu'on peut dire depuis le début de l'époque où nous avons commencé, nous, Homo sapiens, à faire de l'agriculture, c'est-à-dire à produire notre alimentation, ce qui n'est pas si vieux que ça, hein, puisque en gros, on a 250 000 ans d'âge, et sur ces 250 000 ans, ça fait seulement entre 15 et 20 000 ans qu'on produit notre agriculture, notre nourriture, notre alimentation, donc en faisant de l'agriculture. Et la première chose qu'on peut dire, qui est absolument irréfutable aujourd'hui, c'est que nous n'avons jamais bien fait l'agriculture nulle part. La preuve, c'est que partout où on a commencé l'agriculture sur Terre, le plus tôt, aujourd'hui c'est du désert. Et partout où on fait l'agriculture depuis 3 à 4 000 ans, c'est en train de devenir du désert. Voilà. Et donc là, on n'est pas sur des problématiques contemporaines, on est sur une problématique historique, nous, humains, on a été obligé de produire notre alimentation à un moment donné pour des raisons qu'on ne connaît pas vraiment. Pour l'instant, on se résout à des hypothèses, mais bon, on ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas comment on est passé de chasseur-cueilleur à...
Oui, quelques-uns disent qu'on était déjà trop nombreux par rapport à la ressource. Il y a des éthologues comme Pierre Jouventin qui aujourd'hui disent que peut-être que notre caractéristique principale à nous, les humains, c'est justement de nous reproduire sans aucune conscience de la limite de nos ressources, ce qui nous a déjà obligés, donc à une époque, à passer de mode civilisationnel à un autre, on va dire, en produisant notre alimentation. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a bien fait. La preuve, c'est que partout où on l'a fait depuis longtemps, ben c'est du désert. Donc aujourd'hui, pour faire court, on est sommé de faire une agriculture qui dure. Ce qui est l'inverse de ce qu'on fait depuis le début. Depuis le début, on fait une agriculture qui ne dure pas. Elle est minière, elle use les sols, tu l'as dit tout à l'heure, et elle accélère l'érosion naturelle par des facteurs qui peuvent aller jusqu'à 100, et qui vont donc enlever toute terre, toute humus, pour arriver à la roche-mère et au désert. Ça, c'est ce qu'on voit dans le croissant fertile, Mésopotamie, partout, le bassin méditerranéen, le Péloponnèse, partout où on fait de l'agriculture depuis très longtemps, c'est du caillou. Donc aujourd'hui, nous avons un défi absolument colossal, c'est de faire une agriculture qui régénère son milieu, c'est-à-dire qui ne l'use plus, qui ne l'envoie plus à la mer, mais qui le régénère. Et pour ça, on est obligé d'y consacrer une grande partie de la biomasse qu'elle produit, parce que c'est ça le vivant, hein, c'est grandir, mourir, pourrir et nourrir. C'est ça le cycle du vivant, ça marche pour nous, pour les plantes, pour les animaux. Et donc, on a tout intérêt aujourd'hui à comprendre que notre agriculture doit produire suffisamment de biomasse pour qu'une partie importante de cette biomasse retourne dans le système pour le régénérer et pour faire en sorte qu'il tende vers l'auto-fertilité. D'accord ? Un autre truc que doit faire cette agriculture dont on rêve, c'est de nous nourrir à nous, évidemment. Mais ça veut dire nous qui. C'est nous, les humains seulement, ou nous, les humains, et nos bêtes. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de bêtes domestiques sur Terre que de bêtes sauvages. Donc, la biomasse qu'on va utiliser pour nous nourrir, est-ce qu'elle doit aussi nourrir l'entièreté des bêtes domestiques qu'on a aujourd'hui sur le globe, qui est un nombre absolument colossal et qu'on n'arrête pas de produire, comme des démiurges que l'on est. Donc, pour répondre à cette question-là de proportion entre l'animal et nous, il y a peut-être une idée d'équilibre qu'on appelle en agroécologie notamment l'équilibre agro-silvo-pastoral, qui est l'équilibre entre les plantes qu'on va extraire, les plantes pérennes et les arbres qui sont là, et les animaux qu'on met autour et dessous dans le cadre d'un projet agricole. Donc ça, cet équilibre-là, c'est peut-être ce qui peut nous guider sur la part animale, non pas désirable, mais nécessaire dans un projet agricole, qu'on les mange ou qu'on ne les mange pas, ce n'est pas le souci. Hein, on est d'accord. C'est vraiment leur présence qui fait l'agriculture.
Mais ils sont là parce qu'on les mange. Ou qu'on mange leurs
ils
produits.
Ils sont là. Les animaux de l'agriculture n'ont pas toujours été là parce qu'on les mangeait. Les premiers animaux de l'agriculture, c'est des moteurs. C'est, ça tire les outils, ça porte des choses. Enfin, les animaux avec qui. Ou alors, c'est des chasseurs. C'est les loups qui sont devenus nos chiens. Donc, les chevaux, les bœufs, les bovidés, tout ça. C'est, avant de les bouffer, on pensait d'abord à s'en servir. C'est comme ça qu'on a fait des civilisations. Hein. Et c'était pas tout le monde qui mangeait du bœuf. Hein. Faut pas rêver. Donc là, aujourd'hui, quelle est la part animale qui pourrait aller dans nos assiettes si on le souhaitait? Eh bien, certainement que cette part animale, elle dépendra du besoin animal dans un projet agricole plus global. D'accord? Donc oui, la deuxième mission, nous nourrir, nous, elle n'est pas si simple que ça. Et puis la troisième mission que pourrait remplir une agriculture durable et souhaitable, ben, c'est de nous faire ce qu'elle fait déjà en partie, beaucoup d'énergie et beaucoup de matériaux pour qu'on puisse se construire, se vêtir, s'éclairer, se rafraîchir, se réchauffer, se transporter, bref, beaucoup d'énergie et beaucoup de matériaux. Donc pour qu'une agriculture réponde à ces missions-là, aujourd'hui, il faudrait qu'elle produise en gros une quantité incalculable de biomasse par rapport à ce qu'elle produit aujourd'hui, qui est misérable, quoi. Voilà. Et donc ça veut dire que si on veut tendre vers ça, vers cette espèce de mirage-là, un peu inaccessible, comme ça, en pensée, il faut soigner cinq sujets majeurs et qui sont intriqués complètement, qu'on peut pas vraiment traiter l'un sans traiter les autres. Et ces cinq sujets, aujourd'hui, c'est ce que... Là, je vous fais part de l'état de l'art sur la planète. Hein, c'est pas Arnaud Daguin qui parle, là. C'est vraiment, je suis porte-parole du mouvement, mais aussi de plein d'autres gens sur Terre qui en sont arrivés à ces conclusions-là, quoi. Premier sujet à traiter vraiment de façon drastique, c'est celui du carbone. Il nous faut une agriculture qui capte et qui séquestre du carbone, donc dans le sol, et non pas une agriculture qui en émet. Et donc ça se traite, hein, on peut passer la journée à en parler, mais voilà, on sait le faire, mais ça implique des comportements agricoles qui sont pas du tout ceux de la majorité des agriculteurs aujourd'hui. Donc ça, pour le carbone, c'est on a besoin d'une agriculture qui capte dans l'atmosphère et qui stocke dans les sols le maximum de carbone. Pour plein de raisons, c'est le carburant de la fertilité. Enfin, on peut en faire une heure là-dessus. Mais je vais pas le faire aujourd'hui.
Et lutter contre le changement climatique, tout simplement.
Mais bien entendu. On pourrait même, si sur nos, allez, soyons fous. On a 5 milliards d'hectares de surface agricole utile sur Terre. Si aujourd'hui on était capable d'y remettre 1% de carbone dans l'humus moyen, quoi, on pourrait provoquer pratiquement une glaciation en moins de 25 ans.
Ouais.
Oui, sauf qu'on peut pas le faire, parce que c'est trop long et compliqué. Donc on vise plus bas, on vise un point de restitution de carbone au sol qui est le 0,4%, c'est-à-dire le 4 pour 1000, un projet que vous connaissez sans doute, puisque maintenant on le connaît, quoi. Et ce projet 4 pour 1000, c'est juste de dire, voilà, si on est capable de restituer au sol 0,4% de carbone en plus chaque année, on compense l'entièreté des émissions humaines. Ce qui est pas mal, quand même.
C'est impressionnant.
Ouais, hein. Mais bon, c'est quand même beaucoup de carbone au sol, hein, ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de biomasse qui retourne. Donc ça, c'est le premier sujet, et il est vital, quoi. Bon, mais les autres aussi. Deuxième sujet, c'est l'eau. On voit bien ce qui se passe avec aujourd'hui les mouvements climatiques violents, de plus en plus, abats d'eau extrêmement violents, sectorisés, des sécheresses qui durent longtemps. Enfin, bon, vous voyez bien tout ça. Donc là, on a besoin absolument de résilience là-dessus. Il faut absolument qu'on devienne plus moins vulnérable, que nos sols soient moins vulnérables à ces météores, à ces effets de la météo. Et donc, nous avons besoin de sols capables d'infiltrer, de filtrer, de stocker un maximum d'eau. C'est pas avec des bassines sur les collines qu'on va y arriver. C'est pas vrai, quoi. On le sait très bien. En plus, ça minéralise tout. C'est une horreur. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. On sait très bien qu'il faut qu'on ait des sols structurés, spongieux, pleine de vie et du coup qui soit capable d'accueillir les masses d'eau importantes, de les filtrer, de les stocker. Donc ça, c'est le deuxième point, une idée fondamentale. Il nous faut une agriculture capable de faire des sols eux-mêmes capables de stocker de l'eau. Troisième truc, et ça c'est aussi vital, c'est la biodiversité. La biodiversité qu'on comprend très mal, on veut, oui, évidemment, faut pas tuer des gentils éléphants, ni des tigres et tout ça, c'est clair, il faut pas. Mais c'est pas ça, la biodiversité. La biodiversité, on le sait, c'est ce qu'on voit pas d'abord. Toutes les chaînes trophiques, elles démarrent dans le sol. Si vous voulez des rapaces dans le ciel, il faut des microbes dans le sol. Et la biodiversité, c'est d'abord des bactéries, des virus, des microbes, des acariennes, des vers de terre, des colombes. Enfin, il faut de tout. Il faut tout un monde. C'est le moteur de la fertilité et la vie biologique d'un sol. Donc, on comprend bien que tout ce qui finit par seed, quand on va le foutre là-dedans, on va pas servir la cause, quoi. Hein. Quand on veut du moteur biologique, quand on veut une fertilité qui va bien, eh ben, il faut qu'il y ait un équilibre et une densité dingue. Donc, nous avons besoin d'une agriculture qui produit de la biodiversité et pas qui la détruit. Parce que je vous rappelle que en agriculture, la biodiversité, ça ne se protège pas. Ça n'existe pas. C'est un mot qu'il faut enlever de son système de pensée. En agriculture, soit tu produis la biodiversité, partie pratique, soit tu la détruis, partie pratique. Mais voilà, faut choisir entre les deux. Nous avons besoin d'une agriculture qui produise un max de biodiversité. Trois premiers points qui, comme on le voit, sont de l'ordre des biens communs. Et c'est pas en faisant payer plus cher la carotte, qu'il faut payer ça, puisque ce sont des services qu'on rend à tous, qu'on mange de la carotte ou pas. On voit bien que si on fait payer ces services-là dans le prix du produit, on se tire une balle dans le pied. Et ça, c'est un des problèmes de Mathieu aujourd'hui, parce que lui, quand il vend des produits de ce type-là, c'est-à-dire qui ont stocké du carbone, qui ont filtré, stocké de l'eau, qui ont produit de la biodiversité, eh bien, par le coût de production que ça représente aujourd'hui, et parce que les paysans qui font ça ne sont pas payés pour avoir fait ça, pas pour faire ça, pour avoir fait ça, c'est-à-dire quand on aura su le valoriser, parce qu'on aura su le mesurer et l'apprécier, alors on pourra payer les paysans pour ces services-là, et ensuite ils nous feront payer la carotte au bon prix. Et elle sera concurrentielle avec la carotte de merde de Hollande, d'Espagne, de je sais pas où. Et ça, il faut commencer à comprendre ça, parce que c'est une révolution un peu comptable, on va dire, économique, mais qu'il faut mettre dans la tête de tout le monde. Et nous, on mène là en ce moment un combat vraiment politique là-dessus. On souhaite vraiment qu'on arrive à mesurer ces services-là pour les valoriser et pour rémunérer les paysans sur les services rendus réellement, pas sur des cahiers des charges à la con, des mesures agroécologiques qui marchent pas. Voilà, donc ça c'est les trois premiers points, je finis avec les deux autres vite fait. Le quatrième, on comprend bien ce que tu manges te constitue, donc nous avons besoin d'une agriculture qui produise ce dont nous avons besoin pour nous constituer, et donc qui ne contienne pas les trucs capables de nous nuire, quoi, en gros, et qui soit dense en nutriments, et donc qui vienne de système de production lui-même dense en vivant, quoi, parce que ça va de pair, on commence à le comprendre. Donc nous avons besoin d'une agriculture qui nous produise une alimentation susceptible de nous constituer convenablement. Et le cinquième point, qui est peut-être en haut des quatre autres, qui est peut-être la clé de voûte du truc, pour moi en tout cas, c'est ce que j'appelle le bif, le bonheur intérieur brut à la ferme. En fait, ça c'est quoi? C'est que la personne, le nana ou la nana ou le mec qui va se lever à 5h du matin pour aller te stocker du carbone, te filtrer de l'eau, te produire de la biodiversité et une alimentation qui te constitue, bah, il faut qu'ils soient à minima contents de faire ça. Il faut que ça leur rende un peu heureux, parce que sinon ça va pas durer, quoi. Et donc si on veut une vie paysanne, une vie agricole intelligente, qui remplisse ces services-là et qui fasse le job comme il faut, dans un système économique qui va bien, il faut qu'il y ait des gens qui soient là-dedans, soient heureux d'y être. Nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, rende les paysans heureux. Voilà. Tu vois, quand t'as fait le tour de ça, t'as remarqué que j'ai pas dit un seul gros mot, j'ai pas prononcé biologique, j'ai pas prononcé biodynamie, agroforesterie, permaculture, son père ou sa mère, j'ai rien prononcé de rien, j'ai juste dit, voilà l'agriculture ce que c'est, voilà comment on l'a fait jusqu'à maintenant, voilà comment il faudrait qu'on la fasse si on veut survivre sur cette putain de planète, parce que la planète, elle s'en fout, elle survivra de toute façon, donc basta causi la planète, maintenant c'est nos fesses à nous, donc si on veut à 8 milliards ou à 7 milliards et demi d'êtres humains avoir une vie correcte sur une planète comme ça, voilà vers où il faut aller. Et après, chacun se démerde de là où il est. C'est-à-dire, le mec qui est en conventionnel, eh ben, il va apprendre à faire autrement, le mec qui est en bio, mais qui laboure, il va apprendre à pas labourer, etc., etc. Tout ça, c'est des techniques, c'est pas des chapelles, c'est pas des religions, c'est juste des façons d'arriver aux enjeux, d'arriver aux objectifs. Et chacun y va de là où il est. On n'est pas obligé de se convertir à une religion agricole pour aller obtenir des résultats. Ça se mesure dans les résultats. Voilà, j'ai fini.
Merci beaucoup Arnaud, c'était passionnant et ça dresse déjà bien le contexte. Tu nous as un peu parlé de comptabilité tricapitaux, je oui. pense. Si ça vous intéresse, on a enregistré un épisode avec Maxime de Rostolan sur le sujet. Voilà. Forcément, je vais rebondir avec Mathieu bientôt, mais forcément, ma première question, je dois quand même te la poser, Arnaud, c'est du coup comment on fait tout ça?
Alors, D'abord, on le fait ensemble. C'est-à-dire que c'est un truc, tu peux pas aller dans ton coin. Tiens, moi, je me suis vu, monsieur machin, grande marque de conserve de légumes, je vais faire le paradis tout seul dans mon coin. Ça n'existe pas. Dans ces sujets-là, c'est tout le monde ou personne. Donc là, de toute façon, d'abord, ça sera collectif. Et ça l'est déjà. Tous les gens qui progressent là-dessus sont toujours dans des groupes de travail collectifs. C'est très, très rare qu'il y en ait un comme ça qui avance tout seul, agronomiquement, quoi. Parce qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin des instituts, de l'INRA, on a besoin de la science, mais pas pour nous dire ce qu'il faut faire. La science, il faut qu'elle dise pourquoi c'est bien quand on fait bien. C'est ça qui est important, pour qu'on puisse le répéter ailleurs ou le partager. Et en fait, c'est ça, à ça qu'elle sert la science. Aujourd'hui, il y a quand même un grand changement qui est en train d'arriver, dans l'agronomie notamment, c'est que le partage des connaissances se fait plus du tout de la même façon. Il est beaucoup plus en réseau, en rhizome, il marche dans tous les sens, il n'est plus du tout top-down comme avant, avec le savoir qui descendait des laboratoires. Non, c'est plus ça du tout. Alors, évidemment qu'il y en a encore des laboratoires, hein. Mais quand même, tous ceux qui font des avancées spectaculaires en agronomie, aujourd'hui, sont dans des groupes de travail, ils échangent à travers des réseaux, à travers des plateformes numériques comme celle la nôtre, agroecologie.org par exemple, mais il y en a plus de neuf, il y en a d'autres. Hein. Et donc, c'est comment collectivement? La réponse, c'est ça. Ensuite, il faut un peu de bonne foi, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le politique va devoir quand même se retrousser les manches, et, comme on dit aujourd'hui, se sortir légèrement les doigts, parce que là, ils sont sur des trucs qui sont une autre planète, quoi, qui n'existe pas, en fait, des valeurs complètement cons et qui sont héritées de systèmes anciens avec des rentes de situation et tout ce qu'on veut, mais on voit bien que ça nuit complètement aux avancées. Et donc là, maintenant, il va falloir mettre ces enjeux sur le devant de la scène, quoi, hein, sur la table. À voir si ces braves gens le prendront ou pas, j'en sais rien. Nous, on fait tout pour leur mettre sous le pif et que ça soit clair, en tout cas. Voilà. Donc, à vous aussi, les jeunes gens, là, de pousser à la roue et d'exiger de vos élus qu'ils soient clairs sur ces sujets, quoi, qu'on avance comme il faut.
On va parler des mesures politiques et j'aimerais bien justement vous entendre sur des mesures politiques concrètes qu'on peut prôner. Mathieu, j'imagine que toi, enfin, tu as un rôle fondamental en tant qu'épicier et peut-être encore plus en tant qu'agriculteur vu que tu peux directement faire ce que propose Arnaud. Tu as fondé déjà les magasins La Récolte. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de fonder des magasins qui sont 100% bio et en circuit court? Je précise qu'on a déjà interviewé dans ce podcast Kitri Lacot, qui est ta directrice générale, qui parle déjà des magasins, mais je voudrais t'entendre toi sur le sujet.
Moi, ce qui m'a amené à monter donc ces magasins, c'est en écoutant des visions comme celles que vient de porter comme Arnaud. C'est des visions d'une autre forme d'agriculture que j'ai découvert il y a une dizaine d'années maintenant, par hasard, et qui m'a donné envie de m'investir dans ce qui tourne autour de l'alimentation et de la production agricole. C'était d'abord juste une intention, et mes recherches m'ont amené à me rendre compte que cultiver de la manière qui vient d'être décrite était extrêmement complexe, incertain, et que il a fallu en bout de course pouvoir vivre de cette activité de production, donc vendre ses produits. Tant que les autres leviers de valorisation n'existent pas, au moins. Et donc, ce qui m'a semblé plus abordable, pour être honnête, c'est celui de commencer par cette brique-là, de valorisation de production agricole vertueuse. Donc, La Récolte est née de cette idée-là. Ça s'est concrétisé dans un magasin, puis d'autres, et avec un cahier des charges, des contraintes bien particulières. Celle de ne vendre que des produits qui sont en direct de producteurs, pour identifier les producteurs et savoir, lorsque je suis client, exactement à qui j'achète, comment est-ce qu'il l'a produit, pourquoi il a fait ces choix-là, pour expliquer aussi les choix de culture et pouvoir, apprendre des choses, se cultiver d'une certaine manière, savoir qu'est-ce qui fait la différence entre deux tomates au-delà d'un prix. La deuxième caractéristique de cette offre, c'est qu'elle est biologique au moins. C'est un parti pris d'éliminer les produits chimiques qui sont liés à ce cahier des charges, mais on devine qu'il y a beaucoup d'autres enjeux que Arnaud vient également de dénoncer dans ses grands objectifs. Et le troisième point, c'est de suivre strictement la saison. Donc suivre la saison, bah, en fait, pour simplifier la compréhension de quels sont les enjeux d'une agriculture différente, probablement plus locale, plus proche, et donc d'adapter sa manière de consommer à ce qui sort de terre et de ne plus dicter à l'agriculteur ce qu'il faut qu'il produise. C'est le constat que j'ai fait, qui m'a fait construire ce cahier des charges-là, qui est toujours valable aujourd'hui. La récolte premier magasin ouvert en 2014, qui est toujours valable aujourd'hui. Et dans ce magasin, la conclusion, c'est de dire, puisqu'il y a beaucoup de contraintes avec ce cahier des charges, il faut trouver des solutions pour faciliter la tâche à chacun d'entre nous, urbains, consommateurs. Donc le fait de limiter l'offre à la saison, ça facilite la tâche de la réflexion. On vient à la récolte sans liste de courses. Et chaque jour, ça change. Chaque semaine, ça change toute l'année au fur et à mesure des saisons. On est là pour accompagner. Et il y a une cuisine dans le magasin où l'on prépare des plats emportés pour montrer comment faire. Donc le magasin lui-même, très concrètement, s'adapte au monde agricole. C'est une AMAP sans les contraintes. Et tente de valoriser ce qui vient à un moment donné. Ça, c'est notre enjeu, et c'est un des premiers points, c'est-à-dire de s'adapter et de ne plus faire supporter au monde agricole les contraintes que l'on voudrait bien avoir.
Alors, une AMAP, si ce n'est que t'es quand même un intermédiaire, oui. Quelles a été les difficultés pour toi à créer cet intermédiaire? Et est-ce que tu as eu la sensation de réellement aider le monde agricole et à développer cette filière-là?
Aider le monde agricole, non. Présenté comme ça, non. Mais de fournir aux producteurs avec qui l'on travaille une manière complémentaire, additionnelle, de valoriser le travail qu'ils font, oui. La récolte ne solutionne pas tout. Il y a les producteurs avec qui on travaille vendent chez nous, dans d'autres magasins, à Paris, ailleurs, en direct. Ils font des marchés, et ils vendent à des grossistes. Et donc, on offre une solution complémentaire pour les fermes qui sont organisées pour vendre de cette manière-là. Comme tu l'as souligné, nous ne faisons pas de la vente directe. On fait du circuit court, c'est-à-dire que il y a le producteur, la récolte et un client. C'est la définition du circuit court. Et il y a d'autres modèles de fermes qui vendent en direct et d'autres qui vendent qu'à des grossistes, qui revendent à des magasins, ainsi de suite. Donc on a sincèrement la conviction qu'on aide les producteurs avec qui on travaille, d'une part en valorisant ce qu'ils font, puisque quand ils sont à la récolte, ils sont à côté d'autres producteurs qui ont tous fait le choix d'une agriculture à leur échelle. Ils ont fait des choix contraignants. Ils ont renoncé à certaines options pour produire des aliments qui ont une qualité. Donc ils sont chacun sur un chemin de production. Il n'y a pas de ferme idéale, il n'y a pas de mode de production idéal, mais ils ont tous fait des choix, que ce soit en élevage, que ce soit en agriculture, en maraîchage, en arboriculture, des choix de semences, des choix de méthodes, etc. Ils testent des choses. Donc ils ont en commun ces éléments-là. La deuxième chose, c'est qu'on peut les aider, nous, tout de même, à savoir ce qui se vend quand même. C'est-à-dire que dans la mesure où il est possible de produire quelque chose, bien de le valoriser parce qu'on est capable d'en parler, on est capable d'expliquer. C'est pour ça que ce lien direct avec le monde agricole est très important pour la récolte, la manière dont on fait notre métier, et donc la difficulté.
Les difficultés que tu as.
La difficulté principale, c'est celle-là. On est, poétiquement, à la récolte, on dit qu'on est des passeurs de savoir-faire de la campagne vers la ville. Ça veut dire qu'on est, concrètement, on a un métier d'épicier, hein, de sourceur de produits, on fait de la logistique, etc. Mais pour garder ce lien, savoir expliquer pourquoi il y a un produit à tel moment, pourquoi en ce moment, cette année, sur certains produits, la saison vient un mois en avance, pourquoi je trouve des haricots verts plutôt que l'année dernière, etc. Tout ça, ça demande d'avoir un lien et de le conserver en voulant avoir de l'impact, donc en faisant grandir la société, la récolte. Mais c'est ça notre défi principal. Donc, vous dire que j'ai résolu toutes les problématiques, ce serait
non, mais que tu as un maillon essentiel de la filière en tout cas.
Et je rejoindrai le point tout à l'heure évoqué par Arnaud de la coopération, c'est-à-dire que on se rend compte et ça s'impose à nous que on ne peut pas travailler à la récolte tout seul. On est contraint. Vient de collaborer avec des producteurs, mais collaborer aussi avec les autres personnes qui font du commerce, qui sont restaurateurs, qui sont commerçants sur des marchés, dans des magasins, parce que il faut acheminer ces produits, il faut faire en sorte que ça puisse être transporté pour un coût le plus faible possible. En ce moment, c'est d'autant plus criant que la logistique coûte de plus en plus cher. Et donc, on a plusieurs possibilités. La première possibilité, elle existe, on l'a vu, dans plein de modèles de distribution, de commerce, c'est d'avoir un grand entrepôt, de centraliser de la marchandise, etc. Mais on perd le lien. On perd la traçabilité, on perd la fraîcheur, on perd l'intérêt de ce dont on parle, c'est-à-dire ce lien de l'assiette, de la ferme à l'assiette. Et donc, l'enjeu est de ne pas se retrouver, d'avoir plein de petites entités autonomes qui collaborent entre elles pour acheter à des producteurs qui collaborent entre eux pour approvisionner un magasin à la récolte, par exemple, ou d'autres magasins. Donc ça, c'est en tout cas, c'est une voie que l'on emprunte pour réussir à avoir de l'impact.
Tu dis que vous avez plusieurs métiers chez la récolte. Chez les agriculteurs aussi, ils ont besoin de plusieurs métiers. Et notamment, tu dis, on travaille avec les agriculteurs qui sont outillés pour nous envoyer leurs produits. Est-ce qu'on ne demande pas trop aujourd'hui aux agriculteurs que ça soit la diversité des métiers ou même tous ces services écosystémiques dont on a besoin?
Les services écosystémiques sont consubstantiels à l'activité. De toute façon, si on veut faire une bonne agriculture, elle va rendre ces services-là. Sinon, c'est pas une bonne agriculture. Ça, c'est clair. Donc là, on ne demande rien du tout. On part des problèmes des agriculteurs eux-mêmes, et c'est eux qui les règlent d'abord. Et dans la façon de régler ces problèmes-là, il y a l'acceptation de ce dont vient de parler Mathieu, qui est le bottom-up de la consommation. On n'est plus dans une époque maintenant où on va décider parce que la télé vous l'a dit ou parce que je sais pas, c'est en vogue sur les réseaux de bouffer tel ou tel avocat ou telle fraise à n'importe quel moment de l'année. Ça, je pense que on va commencer à comprendre que cette époque-là, elle est un peu révolue. J'ai bien peur même que ça aille plus loin, mais ça, on verra ça. Ça sera toujours temps d'en parler. On fera un autre podcast là-dessus. Mais bon, déjà, ça, c'est, après, sur la question, est-ce qu'on en demande pas trop aux agriculteurs? Bien sûr que si, mais ça a toujours été la loi du genre. On a toujours trop demandé aux agriculteurs et on les a jamais laissés prendre le pouvoir. Il n'y a pas une civilisation au monde qui ait donné le pouvoir à ceux qui produisaient à manger. Regardez l'histoire de la planète, enfin, avec les trous qu'on a dans la raquette. Hein, mais malgré tout ce qu'on connaît de nos civilisations, il n'y a pas une civilisation de paysans, pas une seule. Et c'est normal, on peut le comprendre. À partir du moment où on délègue cette activité qui tend à la survie d'une espèce, on ne peut être que coercitif avec ça. Hein? Ça fait partie de notre histoire. On leur a toujours trop demandé aux paysans, enfin trop ou beaucoup en tout cas. Mais il fut une époque où ça coulait de source parce que de toute façon c'était ça ou rien quoi. Et le problème de l'agriculture humaine, ça a toujours été combien je produis. La grosse révolution qui a eu lieu au 19e et au 20e siècle, c'est qu'on est passé de combien je produis à comment je produis. Puisqu'on a commencé à produire tellement qu'on peut se permettre d'en jeter un tiers aujourd'hui. Donc on jette sans valoriser un tiers de ce qu'on produit. Et si on mangeait pas tous ces animaux, on a de quoi nourrir 12 milliards d'êtres humains chaque année. Aujourd'hui. Donc on en fout la moitié, enfin pas la moitié, on en fout un tiers en l'air. Et on donne à bouffer. Donc la faim dans le monde, c'est pas un problème. C'est un problème géopolitique. C'est pas un problème de ressources. Ouais. Pas du tout. C'est un problème de distribution. Ça n'a rien à voir avec voilà. Et il y a plus de gens sur Terre qui vont mourir là de trop et mal manger que de gens qui vont mourir de faim. Faut comprendre ça. Il y a 12% de la population qui est en danger par la faim, et il y a presque 18% de la population du monde qui est en danger par trop et mal bouffer. Et ça, c'est un truc qu'il faut quand même réaliser. Il va falloir ajuster quand même à un moment donné. Donc demander beaucoup aux agriculteurs, certes, on leur demande, mais c'est d'abord eux qui se doivent et qui sont exigeants pour eux, c'est-à-dire pour perpétuer leur outil de travail, leur capital sol et leur bonheur à eux dans les pratiques qu'ils ont. Et c'est ça qu'il faut faire bouger là aujourd'hui. C'est ce qui est le plus important de tout, à mon avis. Hein. C'est la clé de tout le reste. C'est de comprendre que ces gens-là sont non seulement nécessaires, mais en plus dans le plaisir. Quoi. C'est eux qui vont nous faire les paysages, c'est eux qui vont nous faire l'alimentation. Et plus ils seront nombreux, plus on sera nombreux à être paysan dans un pays, et mieux on se portera. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça arrive maintenant, quoi. C'est le début d'une sorte d'exode urbain, quoi. Voilà, enfin, le tout début.
Mathieu, toi, tu as décidé l'agriculture biologique comme un critère. Tu nous as parlé de gros mots tout à l'heure, Arnaud.
Ben oui, c'est des mots qui sont gros, quand même.
Pourquoi tu as fait ce choix ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une contrainte pour toi ou au contraire, c'est indispensable ?
C'est une contrainte et qu'on a choisi. Et c'est une véritable contrainte. Et ce n'a pas été une décision facile de s'imposer cette contrainte. Le label me semble totalement imparfait. Il ne me garantit que d'une chose. C'est que la liste des produits en CID ne soit pas utilisée.
Ce qui est déjà important.
Voilà. Ça ne m'apporte que ça. Ça ne me garantit pas que véritablement l'agriculture soit vertueuse au sens de la vision que Arnaud porte aujourd'hui. Ça ne me garantit pas que le produit soit nutritivement riche, ça ne me garantit pas que il y ait ce juste équilibre entre le végétal et l'animal à la ferme, ni dans mon assiette. Ça me garantit pas que les produits soient bons.
Ça te garantit quand même que les animaux ont été élevés avec un espace extérieur. Et l'absence.
Tout juste. On peut, la plupart des en l'occurrence, on vend de la viande à la récolte, effectivement, et la plupart des éleveurs vont bien au-delà. Puisque un espace extérieur, on peut le quantifier. Est-ce que le label est suffisant? Le nombre d'animaux, est-ce que c'est le bon nombre de bêtes par hectare, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail du label, mais en tout cas, ça mérite d'être questionné, d'être évalué pour savoir quel est véritablement le bon. En tout cas, nous à la récolte, c'est juste un point de départ. À vrai dire, on n'en fait pas commerce du label bio. Si vous venez dans un magasin, vous verrez pas un magasin vert. Et la plupart de nos clients, la moitié de nos clients au moins, ne s'en rendent pas compte. Parce que c'est technique. C'est pour nous un critère de sélection. Et ensuite, au-delà de ce critère-là, on essaie de comprendre. Bien, je vais prendre l'exemple du bœuf, par exemple. Pour nous, c'est important que ce soit un élevage extensif. Donc que le bœuf soit élevé à l'herbe et au foin. Ne mange que de l'herbe et du foin. Donc ça détermine une manière de cultiver qui est extensif, donc qui apporte, qui permet d'avoir une qualité de produit et au niveau nutritionnel notamment, et ça donne ça contraint à avoir moins d'animaux par hectare, et on s'adapte à la récolte en achetant la totalité de ce que le producteur, dans un animal, il y a des morceaux appréciés et d'autres moins. Et donc la question est de savoir comment adapter sa consommation pour ne pas consommer que ce qui nous intéresse et jeter ou faire des croquettes, par exemple, pour chien, du reste. Et donc il y a un travail. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un travail qui est plus complexe, qui est juste de dire je prends un label ou j'en prends pas un tel autre label. Et à la récolte, oui, on a fait choix de se reposer au moins sur celui-là, mais ça ne fait que démarrer les discussions pour ne pas rester cantonné à est-ce que je mets des produits chimiques ou pas, etc.
Arnaud ?
Un petit mot sur le label bio, parce que on me taxe souvent d'être un peu dur avec l'agriculture biologique. Et en fait, c'est un peu vrai parce que je suis dur comme on est dur quand on est, par exemple, dans un couple qu'on a été trompé. Oui, on peut être dur un peu avec son conjoint, en disant mais là, tu t'es foutu de ma gueule. Et moi, j'ai vécu le début de l'agriculture biologique de l'intérieur. J'en connais beaucoup de pionniers. Et notamment, j'ai lu tous ceux qui, enfin pas tous, mais beaucoup de ceux qui ont écrit sur ce qu'est l'agriculture biologique. Et donc, tout ce que je viens de vous dire là, à l'instant, c'est porté dans ce qu'ils ont écrit, ces gens-là. Alors, les pionniers de l'agriculture biologique, ils parlent de carbone, d'eau, de biodiversité, ils parlent de densité nutritionnelle, ils parlent du bonheur d'être fermier. C'est ça dont ils parlent. Alors, maintenant, vous prenez le cahier des charges EcoCert, vous le lisez, vous me dites ce que vous retrouvez de ça dedans, et on recose. Voilà, c'est tout. C'est ce qui est devenu l'obligation biologique aujourd'hui. L'agriculture biologique, c'est quelque chose qui n'est pas du tout porteur, enfin pas assez porteur de l'esprit qui animait ceux qui l'ont créé au départ.
Oui, parce que tu es dur avec le pas du tout, parce que ça reste en tout cas aujourd'hui le label le plus exigeant, label public, je précise, le plus exigeant.
Oui, et donc.
Donc c'est quand même mieux, en tout cas, que l'agriculture industrielle.
Ça dépend. Alors, on va faire 5 minutes sur le sujet. Ça dépend. Ça, c'est la phrase qu'on entend le plus en agricole, parce que en agricole, de toute façon, ça dépend. Et là, en revanche, je peux vous faire un exemple immédiat de 2 exploitants agricoles, je dis exploitants exprès, côte à côte dans le Gers, sur mes coteaux de calcaire du Gers, là, tous les 2 sont en bio, d'accord ? Il y en a un qui est en train de faire du désert, ses collines sont blanches, il n'arrive plus à remonter les sols, il n'aura plus de maïs, il est en bio, hein ? Et il y a l'autre, lui, eh bien, tout va bien, ses sols sont là, il a 120 hectares, et il est en bio aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il s'est passé que celui dont je parle en dernier, là, lui, il est venu à des pratiques agricoles d'un certain type, non pas parce qu'il voulait être bio, mais simplement parce que son sol foutait le camp, et que donc les pratiques qu'il avait à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'elles étaient en train de détruire son capital sol. Et il a commencé à travailler là-dessus, il a repris des brebis là où son père les avait vendues pour avoir de la matière organique, pour fixer un peu la vie biologique sur les sols, il a arrêté de labourer, il est passé en non-labour, en conservation des sols, et puis petit à petit, en maîtrisant de mieux en mieux les adventices et le non-labour, eh ben, il a plus besoin de sortir la charrue, il avait plus de chimie depuis un moment déjà, le mec s'est fait certifier en bio. Comme résultat. D'accord? C'était un résultat de sa démarche. Celui d'à côté, c'était un mec qui était inconventionnel, à un moment donné, il dit, putain, mon maïs, je le vends pas bien et tout, combien tu vends, toi, le bio? Ah ouais, quand même, bon, allez, je vais me convertir. Et donc, il a pris le cahier des charges, il a dit, voyons, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Il a appliqué le truc à la lettre. Il est en bio. Voilà. Faut pas oublier que le désert de Mésopotamie, c'est le premier désert entièrement bio de la planète. C'est devenu un désert avant même qu'on ait inventé la chimie du pétrole. Pas oublier ça. Donc ne pas être contempteur de la bio, moi j'ai rien contre, mais pas du tout. Il y a une industrie d'agriculture biologique qui me sort par les trous de nez. Voilà, et je dois dire que certains des meilleurs paysans que je connaisse, des plus avancés, sont des paysans en bio. Mais ça ne suffit pas à les décrire. Vous comprenez ? C'est un résultat comme un autre de ce qu'ils ont fait. Et ceux-là, ceux dont je parle là, ils ont tous en tête les 5 points dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pas le fait d'être bio ou pas bio, c'est pas leur problème.
Ok. Il y a 3 sujets dont je voudrais qu'on parle, parce que le temps avance. Il y a le sujet consommateur. Je comprends l'enjeu sur le bio, mais à mon avis, aussi le choix du bio que tu as fait, c'était quand même une certaine lisibilité pour les acheteurs.
Bien sûr.
Donc, l'intérêt d'un label, c'est quand même celui-là. Et qu'est-ce qu'on fait, du coup, si on peut pas faire confiance au label bio là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut choisir comme alimentation concrètement? Le 2e sujet dont je veux parler ensuite, c'est la question de la place de l'animal. Et le 3e sujet, ça va être plus politique. Mais pour commencer sur la partie consommateur, du coup, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait tout ça en tant que consommateur final pour
bien
faire?
Le problème, c'est que tu dis qu'est-ce qu'on fait quand on sait tout ça? Tu vas trop vite, là. Personne sait tout ça.
Certes.
Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se cultive.
Écoutez, sur le grill
décotable. On va à la récolte et on pose des questions, non? On se cultive soi-même. Avant d'être exigeant, de dire « moi, je veux le mieux du mieux pour moi, ma petite santé, mes petites fesses et tout », ben on se cultive, on regarde ce que c'est la difficulté de produire, qu'est-ce que c'est que la difficulté d'être paysan, à quoi ça rime aujourd'hui de se mêler, de nourrir l'autre, dans les enjeux qu'il y a là-dedans, comment c'est pris au sérieux, plus ou moins, par des grosses boîtes ou des petites. On se cultive, on apprend à comprendre ces enjeux-là. C'est quoi le carbone dans l'agriculture? C'est quoi la flotte dans l'agriculture? C'est quoi la biodiversité dans l'agriculture? Ça sert à quoi? Comment ça marche? Une fois qu'on commence à comprendre ça, il ne faut pas une heure pour piger ce que c'est que la carotte qu'il y a devant toi. Tu n'as pas besoin d'y foutre un tampon avec trois étoiles et marquer dessus. Ça ne va pas te donner le cancer. Non, c'est, on n'a pas besoin d'un code de la route de l'alimentaire. On a besoin de comprendre, de se reconnecter avec le vivant. C'est, nous, on est dans une chaîne alimentaire, on a besoin de se reconnecter à ça.
Oui, mais quand même, tout le monde n'a pas à côté de chez soi des magasins à la récolte.
Mais ça vaut pour les marchés, enfin, ça vaut pour beaucoup de choses, hein, ce que je dis là, et même pour des super.
Tu veux dire que toi, tu es capable d'identifier, en regardant un produit?
Mais c'est même pas une question d'être capable, il faut être curieux, c'est tout.
Il y a d'autres moyens de se... Alors, je pourrais pas mieux décrire l'enjeu de se cultiver et de comprendre, en tout cas, c'est ma démarche. C'est la démarche qui, moi, m'a amené à faire le métier que je fais aujourd'hui, aligné avec ce à quoi j'aspire. Et je pense que le podcast qu'on est en train d'enregistrer et tous les leviers d'information auxquels chacun a accès aujourd'hui permet, avec un petit peu de volonté, de se piquer la curiosité et peut-être de prolonger un peu jusqu'à être capable d'identifier un produit et sa particularité dans un magasin à la récolte ou ailleurs. Il y a beaucoup d'endroits où l'on peut consommer vertueusement, mais ça passe par la compréhension. Et moi, j'y suis confronté tous les jours, puisque sur le sujet que tu évoques là, de labelliser quelque chose, nous, on ne sait pas quoi faire de ce label. Il ne nous permet pas d'expliquer ce qu'on veut faire. On le met, mais en même temps, c'est pas le seul critère de décision. De quoi parle-t-on? Comment est-ce qu'on met en avant un produit, etc.? Est-ce qu'on parle du fait que ce soit une ferme en polyculture? Est-ce qu'on parle du mode de production? Est-ce qu'on parle de la proximité? Est-ce qu'on parle de la sélection de la semence? Est-ce qu'on parle de d'autres choses qui seraient un levier, c'est du bonheur? Est-ce qu'on choisit d'acheter une carotte parce que la personne est plus heureuse, qu'elle en vit correct? Il y a plein de leviers. Et c'est complexe. Et donc, ça passe par le fait de passer un petit peu de temps dessus. On essaye de le faire là où c'est possible, à la récolte, mais c'est avant tout, si on devait invoquer une solution magique, une démarche individuelle qu'on souhaiterait voir émerger chez tout le monde, en fait, simplement. Véritablement, je vois pas.
Il faudrait qu'on fasse plus la cuisine ensemble. C'est une activité qui est devenue marginale maintenant. C'est presque un loisir de luxe, la cuisine. On fait ça le week-end avec des potes et tout, machin. Mais bon, c'est vrai que on devrait avoir plus de cuisines ouvertes, publiques, animées, voire surveillées, ou à côté des marchés de producteurs, par exemple, dans les quartiers, souvent. Et il faudrait qu'on ait ce genre de lieu où on échange, parce que la cuisine, ça s'apprend. Avec tous les sens, c'est complètement polysensoriel, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut transmettre par la télé ou par la vidéo ou par un bouquin, c'est pas vrai, on le sait bien, quoi. Pour faire la cuisine, il faut sentir, toucher, goûter, ressentir tout ça. Donc c'est important de le faire ensemble aussi, de voir comment font les autres, d'échanger des trucs et des machins. Cette reconnexion à la cuisine, elle est vitale pour se reconnecter à tout le reste. Quand tu prends ton alimentation en main, tu prends ta vie en main. C'est ça qui se passe. Même pour un œuf au plat. C'est ça qui se passe. Ce qui est en train de se passer quand tu te fais à bouffer, c'est que tout d'un coup, tu prends un truc en main, quoi. Tu délègues pas, tu externalises pas, machin. Donc voilà, c'est là que ça, pour moi, la clé, elle est là. Elle n'est pas sur est-ce que cette carotte va me filer des boutons ou est-ce que c'est... Non. La clé, elle est dans ça. Donc je prends ça et du coup, tout naturellement, ça va m'intéresser et tout le reste va découler de ça. Et y compris le sujet d'après, c'est-à-dire l'animal.
Sujet crucial qu'on va devoir aborder assez rapidement quand même, mais on en a parlé depuis le début, on a compris qu'aujourd'hui, tu n'as pas donné ce chiffre, mais moi c'est un chiffre qui me marque assez souvent, qui est que 80% de nos surfaces agricoles servent à l'animal aujourd'hui, soit pour les céréales, soit pour le pâturage. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et de l'autre, tu nous dis... que celui qui a remis des brebis voit son sol revivre derrière.
Bien sûr. Si tu veux pas aller chercher, tu vois, aujourd'hui, le gaz russe est rare et cher. Il faut qu'on l'achète, je sais plus où. Il faut qu'on passe par trois intermédiaires parce qu'on a décidé de punir la Russie. Donc, on est très, très puni de punir la Russie. Bon. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui fabriquent les engrais minéraux, ils les vendent beaucoup plus cher. On est d'accord. Donc, Alors déjà, ça avait commencé à augmenter il n'y a pas longtemps. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agriculture, c'est exporter quelque chose d'un sol. Hein, à un moment donné, on arrache quelque chose d'un sol pour le consommer ou pas d'ailleurs. Et donc on enlève, on fait un export du sol en question. Et si on veut que ce sol se régénère, il faut bien remplacer ça d'une façon ou d'une autre. La boucle naturelle de la fertilité, elle remplace ça par des plantes qui vont mourir et nourrir ça. Et donc cet azote-là et ce carbone-là vont venir des plantes qui l'ont fixé. D'accord ? Mais il faut quand même un minimum de matière organique et de vie biologique dans ce sol. Or, le gros avantage d'une vache, comme tous les polygastriques, c'est que quand elle mange une bactérie par la bouche, elle en chie 1 million par le cul. Et ça, pour la vie des sols, c'est extraordinaire, parce que c'est un accélérateur foudroyant quoi, de vie biologique. Et c'est ça qui fait en grande partie la fertilité. Alors, si on veut acheter la fertilité à Monsieur Poutine, on peut, mais si c'est plus simple d'avoir 30 brebis, je pense que c'est plus simple d'avoir 30 brebis. Enfin, moi, personnellement, je pense que c'est beaucoup plus simple de ne pas court-circuiter la fertilité, d'être dans ce cycle, on va dire un peu naturel de la fertilité, avec l'animal en présence là. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le bouffer. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le tondre ou de prendre son cuir pour faire des ceintures. Ça, c'est chacun, se le voit. À sa place dans le vivant, en tant qu'homo sapiens, elle regarde chacun d'entre nous. Donc voilà, est-ce que toi, tu te fous dans une chaîne où tu es, où tu te donnes le droit, entre guillemets, de tuer pour bouffer, ce que fait l'entièreté du vivant toute la journée sans te demander ton avis. Donc ça, c'est un truc. Mais en fait, la vraie question, c'est pas ça pour les humains. La vraie question, c'est est-ce que tu te donnes le droit de faire naître ces animaux et de leur faire vivre une vie de merde pendant 14 jours ou moins, confinés à s'arracher le bec et tout, pour faire du soi-disant chicken nuggets de mes fesses, là. C'est ça qui est insupportable. Il faut comprendre ça, la différence entre ça et des poules qui sont avec des vaches au milieu d'un bocage et qui te fait un paysage de fou, qui va te filer des pommes, du blé, du foin, du lait, du fromenton, des œufs, quelques poulets, c'est autre chose. Mmh. Tu vois ? Alors, est-ce qu'on peut nourrir la planète avec ça, là, cette image d'épinal ? Donc, la plupart des gens qui ont 1000 hectares de céréales vont te dire non. Mais si tu regardes le monde tel qu'il est, tu t'aperçois qu'en fait, la plupart des populations mondiales sont nourries par des petits agriculteurs. Ce qui est logique. Et qu'il va falloir que ça nous revienne un peu quand même, cette idée qu'un territoire doit se nourrir avec la mosaïque de ceux qui s'en occupent. Mais pour l'instant, on n'en a pas. On n'en a pas. On les a ou tués à la guerre, ou fait bosser en usine. En tout cas, on leur a expliqué que c'est un métier à la con, et qu'il valait mieux qu'ils vendent à leurs voisins, et que du coup, le voisin devient de plus en plus gros, il devient entrepreneur agricole, il a 2 000 hectares, et puis il ne peut plus vendre dans sa ferme, c'est trop gros, donc c'est une boîte chinoise qui va l'acheter. En gros, c'est ça la dynamique. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on revienne, nous, tranquillement, en disant un territoire peut se nourrir avec des gens qui sont dessus. Voilà. Et elle est là la vraie question de l'animal humain ou de l'animal animal dans l'agriculture. Il faut remettre de l'humain, et il faut enlever un peu de densité d'animaux là où il n'y en a pas besoin, il faut en remettre là où il y en a besoin.
Donc il faut réduire en tout cas notre quantité d'animal élevé.
Dans l'assiette, c'est sûr.
Mais alors dans l'assiette, justement, ta place, toi, en tant que distributeur, Mathieu, elle est peut-être même cruciale, justement, sur faire en sorte que les gens se cultivent sur ces enjeux-là.
En discutant avec Arnaud, je me suis demandé si ce qu'on vendait à la récolte correspondait à l'équilibre dont on parle là. C'est-à-dire, est-ce que la part de l'animal était justement proportionnée à celle qu'il faudrait avoir dans une ferme ? J'ai pas la réponse, mais en tout cas, on a commencé à se demander comment le calculer. Ben, on sait déjà que la réponse, elle est pas évidente. Mais de l'autre côté, à la ferme de la Commanderie, on a eu cette démarche-là. D'une ferme en céréales uniquement, on a introduit de l'animal. Et on s'est demandé quel animal, en quelle quantité et de manière équilibrée. Donc la ferme, très concrètement, fait 75 hectares de surface cultivable sur 90. Le reste, c'est des chemins, des haies, des pâtures qui ne sont pas réellement exploitées, qui participent à la biodiversité. Donc sur ces 75 hectares, on a une partie qui est consacrée à produire de quoi nourrir des poules qui font des œufs et qui, avec leur déjection, nous permettent d'amender le sol sur l'équivalent de 20, on estime, sur un tableur Excel, 20 à 25 hectares. Il faudra qu'on le mesure. Et pour ça, on a mesuré, on a fait des analyses de la terre avant qu'elles arrivent, on va le faire pendant, puis après on verra quel sera effectivement l'intérêt et puis le juste équilibre qu'il faut trouver. Mais on sait que déjà cette population animale sur la ferme de la Commanderie, elle n'est pas suffisante. Mais on a commencé et on sait d'ores et déjà qu'on ne dépassera pas ce qui est supportable et le juste équilibre. Donc au niveau d'une ferme, par exemple, c'est plus facile de se rendre compte de cette taille-là. C'est dire, une ferme, en l'occurrence, 75 hectares, c'est deux poulaillers de 250 poules qui pondent un œuf par jour, par poule, et ça permet de trouver un équilibre sur, disons, 25 hectares. Donc maintenant 25 hectares de blé dans le sud-ouest, c'est 25 fois 3 tonnes, disons en moyenne. Donc on a 75 tonnes de blé par an, ou d'un équivalent pois chiche, si on fait une moyenne simplifiée, du pois chiche, de la lentille, du soja, du maïs, du tournesol, de l'huile, donc voilà. Voilà peut-être un rapport, je sais pas, je mange un œuf par jour je mange des céréales et par ailleurs.
Mais concrètement, il faut quand même convaincre nos auditeurs et nos auditrices, je pense que ça fait partie des gens les plus convaincus, mais de manière générale, plus largement, de manger moins de viande. Comment tu fais ça? Est-ce que toi,
alors,
en tant qu'épicier, tu peux le faire?
Le parti pris qui est celui de la récolte, le mien et qu'on a choisi, c'est celui de la surprise positive. C'est pas celui tellement de la flagellation à la récolte. Il est avant tout question de plaisir, de goût. Et c'est après avoir dégusté un plat constitué de plein de bonnes choses, mais pas de viande, et surtout sans avoir prononcé le gros mot de plat végétarien, vegan ou que sais-je, c'est après coup. On se dit, mais c'était bon. Et tu sais pas quoi, il n'y avait pas de viande dedans. C'est par ce biais-là, en tout cas, que je pense qu'on arrive à changer une habitude, à se rendre compte que je peux commencer à cuisiner en me demandant, non pas, est-ce que je vais manger du bœuf, du poulet ou du poisson, mais quel est le légume du moment ? Quelle est la légumineuse intéressante? Et ensuite, quelle sauce, comment je vais l'accorder? Et puis, pourquoi pas rajouter un petit peu de viande, peut-être de manière plus... pour apporter du goût, en fait, plutôt que comme quantité principale. Mais voilà une approche qu'on essaye de développer, mais c'est
Un mot peut-être sur nos proportions de viande dans l'assiette, hein, c'est quand même extrêmement récent.
De manger autant de viande.
Ah ben, carrément. Et d'ailleurs, il n'y a pas une seule civilisation dans l'histoire, à notre connaissance, qui ait survécu à ce taux de protéines animales dans l'assiette. Donc, ça pourrait être un signe que ça déconne un peu.
Les maladies cardiovasculaires nous le rappellent, en effet.
Il y a ça, mais pas que. Hein. Mais de fait, ça en fait partie. Voilà. Et surtout quand ces animaux, c'est la double peine, non seulement on en mange trop, mais en plus, les animaux eux-mêmes mangent trop de trucs qu'ils ne devraient pas trop bouffer. Et comme ils ont une vie très courte, ça se voit pas, ils vont pas en mourir à la fin. Mais par contre, les gras qu'ils fabriquent et qu'on mange nous, c'est pas tout à fait les bons pour nous. Et dans l'histoire, en fait, l'animal, si on regarde alors à grands traits, hein, il a toujours été réservé à une certaine élite sociale qui en mourait volontiers d'ailleurs. Si on regarde dans l'histoire, les gens qui mangeaient le plus d'animal, c'était, mettons, au Moyen-Âge, on va dire, c'était les seigneurs, les notaires, les évêques, les tabellions, les nobles, tout ça, ça mangeait énormément de bestioles, et ça avait la goutte, c'était pas en bonne santé, ça avait plus une dent ni rien, quoi. En fait, c'est vraiment... voilà. Et quand on regarde le menu le régime des catholiques du XIVe siècle, est-ce que vous savez combien il y a de jours maigres dans l'année? J'ai calculé ça, entre carême et le reste, et les vendredis et tout ça. Il y a presque 200 jours maigres sur 365. pour le peuple. Alors évidemment, l'évêque, quand il fait maigre, il mange un turbo sauce hollandaise. Bon, mais...
C'est vendredi,
c'est maigre, voilà. Mais quand même, c'est récent de manger toute cette bestiole. Et de la produire aussi, hein, ouais. De la produire en si grande quantité. C'est les feedlots des États-Unis. Il y a beaucoup de nos merdes actuelles viennent des États-Unis, énormément. Des fois, elles passent par la Chine, mais... ça arrive quand même souvent des États-Unis et ça fait partie des emmerdements majeurs, c'est-à-dire de considérer que la viande n'était plus des animaux coopérant dans un projet agricole comme c'était le cas en Europe dans la polyculture élevage dont on vient de parler là. Donc ça c'était notre histoire de l'agriculture, hein. C'est Olivier de Serres, voilà, c'était la polyculture et l'élevage, et quand on pense à polyculture et l'élevage, tout de suite on pense à un équilibre dont parlait Mathieu à ce moment-là, et cet équilibre-là dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'équilibre donc agro-silvo-pastoral, avec la quantité d'animaux présents dans le projet agricole pour son équilibre et sa perpétuation. Et c'est de là qu'on part sur la consommation ou pas, sur cette quantité-là. Donc, faut pas, enfin, à mon avis, il faut pas sortir de cette idée-là qu'on mange de l'animal ou qu'on n'en mange pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est beaucoup plus difficile de faire de l'agriculture sans bestiole. Hein. C'est beaucoup, beaucoup plus.
Oui, toi, tu en veux plus aux gens qui disent qu'on peut se passer totalement de l'animal.
Ah ben oui, je vois pas comment, moi.
Dans l'agriculture.
Agronomiquement, ça fait juste 40 ans que je gratte le sujet. J'ai toujours pas compris comment on pouvait même l'imaginer, quoi. Alors, sauf si on tient compte que nous sommes des animaux et que donc ce sont nos matières fécales à
bien
nous
sûr.
Qui vont... Bon, pourquoi pas, hein, c'est, ça peut faire partie du bordel. Mais pourquoi se passer des polygastriques qui sont quand même beaucoup plus efficaces que nous là-dessus et beaucoup plus safe? Parce que les fermentations qu'il y a dans un rumen de vache, ça donne pas les mêmes bombes atomiques que celles qu'on peut sortir nous, quoi.
D'accord.
Voilà.
Je voudrais qu'on finisse...
Excusez-moi d'être un peu scato.
Je voudrais qu'on finisse par les leviers politiques. Parce que Mathieu, ce dont tu nous parles notamment, et ce que tu fais via la récolte, en faisant changer les gens, notamment parce qu'ils vont manger, ça nous fait des changements qui sont indispensables, mais qui sont relativement lents. Et on a besoin quand même d'aller vite. Sur ces enjeux-là, sur des enjeux de capter du carbone, sur les enjeux sanitaires, etc. Et tu l'as dit dès le début, Arnaud, la solution, elle est collective. Elle est avant tout politique. Donc, quels sont les leviers politiques qui sont pour vous les plus importants et qui feraient que demain, on peut peut-être aller dans la rue et en effet, tu le disais, Arnaud, aller demander à notre gouvernement de changer les choses. Je vais vous demander chacun de me...
Bon, si on met de côté tout ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire tout ce qui est culturel, tout ce qui est vraiment le fait de se cultiver soi-même, pour, et qui me paraît, moi, fondamental. C'est d'abord de là qu'il faut que ça vienne. Parce que c'est à partir de là que, quelles que soient les revendications qu'on puisse porter vers un gouvernement, quel qu'il soit, elles pourront être prises en compte parce qu'elles seront fondées. Et ça sera pas juste, on veut bouffer plus en payant moins, quoi, ou mieux, ou parce que ça veut rien dire en gros. Donc si on y va avec quelque chose à demander qui relève du concret, à mon avis, il y a plus de chances peut-être d'être entendu et que ça démarre.
Donc toi, tu penses que le changement viendra du bas?
Ouais, moi j'en suis sûr. Moi, je pense que ça fait maintenant quelques années que je m'aperçois. Que les grands changements, ils sont bottom up. Ils sont jamais, ils viennent jamais de la tête. Ça vient du sol. Enfin, tout vient parce que là, ça paraît logique aussi à la fois. C'est le vivant qui est comme ça aussi. C'est la multitude des acteurs qui fait les choses. C'est pas une pensée qui va prendre les commandes. Surtout en matière d'agriculture où on ne peut rien codifier. Il n'y a pas une recette qui marche. Enfin, voilà. Après, ce qu'on peut demander aux politiques aujourd'hui, c'est de bien reconsidérer ce qu'on appelle la politique agricole commune, mais sauf que ça, c'est entre les mains de tels lobbies que ça va être très compliqué. Vous savez que les politiques, aujourd'hui, ils décident pas en fonction du bien public, ils décident en fonction de qui a le plus de poids dans leur oreille, quoi. Hein. Je dis poliment l'oreille. Et donc, de fait, c'est pas des gens comme nous, avec zéro pognon, qui allons compenser le boulot de sape qui est fait en permanence auprès... de la Commission européenne, par exemple, par des gens qui ont d'autres intérêts que le bien commun, Et on voit bien ce qui se passe en Hollande aujourd'hui. Vous avez l'entièreté des agriculteurs de Hollande, ils sont debout, vraiment à se battre. Personne n'en parle en France, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une vraie révolution, tout simplement parce qu'il y a une politique qui vient d'en haut, là, qui vient même pas de Hollande d'ailleurs, qui vient plutôt de Davos, pour dire que il faut changer, on va éliminer tout un pan de la population parce qu'il est agriculteur et que dans ce pays, on ne veut plus faire d'agriculture. C'est comme quand on est en France, on ne veut plus faire d'industrie, quoi, voilà. Alors on fourgue tous nos bijoux de famille ailleurs, parce qu'en France, on ne fait plus d'industrie.
Mais tu restes quand même optimiste, du coup, sur l'évolution de notre société, parce que quand on voit la réforme de la politique agricole commune qui n'a pas atteint ses résultats, en tout cas d'aide à l'agroécologie, tous les gros mots dont on n'a pas voulu parler tout à l'heure, agroforesterie, etc., et le mal-être agricole qui grandit de plus en plus, avec les sécheresses, avec la grêle, les enjeux climatiques, etc., est-ce que tu arrives à rester optimiste ?
Non.
Okay. C'est honnête.
Mais bon, faut bien faire un truc le matin quand on se lève. Non, mais bon, moi j'ai confiance dans les gens, pas dans les institutions. Voilà. Je pense qu'il y a un moment donné où tout ça va nous péter à la gueule, que la finance va se péter la gueule et qu'à un moment donné, faire pousser un poireau, ça va devenir plus important que, je sais pas quoi, miner du bitcoin.
On est d'accord.
Enfin, il me semble, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, la question se posera même plus parce que d'un côté, t'auras les poireaux qui filent la chiasse et d'autre côté, t'auras les bons poireaux. Et là, le choix, il va être vite vu. Ça va être vite fait, quoi. T'auras ceux qui savent faire et qui vont faire bien, et sans trop se fatiguer parce qu'ils auront appris et qui vont produire. Et donc, ça sera bien de fréquenter ceux-là. Et puis, t'as ceux qui vont ramer un peu plus et qui ont intérêt à se mettre dans un groupe pour apprendre, quoi. Voilà. Mais ça, c'est pour moi, vous, les jeunes, là, vous allez être confrontés à ça relativement vite, à mon avis. Et c'est bien, d'une certaine façon. Enfin, moi, je l'appelle un peu de mes voeux, ce moment où on a laissé tomber quelques merdouilles, là.
On y a un peu cru au moment du Covid, mais...
L'iPhone 495, tu vois, bis, et puis se mettre sur c'est quoi le vivant, quoi. Il y a d'autres enjeux.
Et toi, Mathieu, c'est quoi les leviers politiques que tu portes?
Mon avis est que le meilleur levier, c'est le levier individuel. Très clairement, en tout cas, c'est celui que moi j'ai choisi. C'est ce que je fais aujourd'hui professionnellement. Pour moi, c'est une action politique dans ce que je fais. Je crois que chacun vote bien plus efficacement au quotidien avec son pouvoir d'achat au sens propre. Et donc, c'est vraiment. Je me suis demandé si j'allais manifester, si j'allais faire des médias ou si j'allais m'engager en politique. Pourquoi pas, pour essayer de défendre un combat qui nous est cher. Et le mien était de m'engager dans une voie professionnelle où je pensais que je pouvais avoir de l'impact. Ça, c'est un choix personnel. Et je crois que c'est le plus efficace si des gens choisissent d'acheter à un endroit plutôt qu'à un autre. Et que c'est ça qui peut faire basculer les choses. Concernant les politiques eux-mêmes, l'action des institutions, avant que Arnaud ne réponde, je me disais que j'hésite entre deux possibilités. Il y a une option A, qui serait que, par exemple, concernant la politique agricole, il y ait une réorientation de cette politique. On en parle de temps en temps. J'avoue que je ne regarde pas du tout ce qui est dit, parce que je n'y crois pas, en tout cas aujourd'hui. Maintenant, faisons le vœu de vouloir réorienter cette action. Peut-on imaginer que les institutions réorientent justement aujourd'hui tout à coup, sans tomber dans le même type de travers? C'est-à-dire, par exemple, aller à fond sur le bio, qui aurait d'autres travers, ou encourager telle ou telle pratique, sans que ce soit dogmatique, insuffisant et en retard sur la réalité du terrain. Et donc, mon avis, c'est que le mieux, c'est qu'ils arrêtent d'intervenir. Ce serait le moindre mal. Aujourd'hui, l'intervention politique, elle oriente négativement l'agriculture. Certains voudraient réorienter cette action, ces flux financiers, vers une autre type d'agriculture. Mais laquelle ? On serait tous à se battre. Et donc, je crois qu'il vaut mieux que... S'il vous plaît, que peut-on faire pour vous? Moi, ma réponse, c'est ne faites rien, retirez-vous de tout, laissez-nous nous organiser, et justement, le bon sens individuel permettra à chacun de faire le bon choix. Je suis convaincu de ça. Et
Tu es un vrai libéral.
C'est très, très simple, du haut d'un environnement hors sol, d'imaginer à pouvoir décider pour les autres. Et personnellement, je suis libéral tout à fait.
Il faut quand même pondérer un peu ça par le fait qu'aujourd'hui, non, il faut partir de la monnaie, hein, comme toujours, en agricole comme ailleurs. Et aujourd'hui, la monnaie, c'est que 50% des revenus des paysans sont de l'argent public. Alors après, c'est réparti d'une certaine façon, et ça mérite d'être regardé, mais c'est quand même 50% des revenus des paysans, quoi. Donc, si on passe au libéralisme forcené là aujourd'hui, t'as la moitié qui met la clé sous la porte, voire pire. Déjà, c'est un peu le cas. Alors, on est quand même dans quelque chose qui a à voir avec l'action publique. Et pour que le quelque chose qui a à voir avec l'action publique soit peut-être efficace, à mon avis, ce qu'on peut accélérer, ce qu'on doit accélérer, ce qu'on est en train de faire, nous, le mieux qu'on peut, enfin le plus qu'on peut, et ensemble, collectivement, avec plein d'autres personnes et réseaux, c'est de se doter des outils nécessaires pour mesurer les services rendus par une agriculture. Les services globaux, tous. Et que ça soit à partir d'un indice fondé sur ça, que nous appelons l'indice de régénération, que on rémunère de façon publique, avec le même argent qu'aujourd'hui, mais en le répartissant différemment, en fonction des services rendus, justement, ou en tout cas des démarches de progrès que font les paysans pour aller vers ça. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on pourrait aujourd'hui être en droit de demander à l'Europe, parce que c'est pas évidemment pays par pays que ça va se faire, c'est de se mettre en ordre de marche, de foutre, je sais pas combien, ils collent des milliards à des McKinsey qu'on sort pour pondre des PowerPoint de merde, là. Eh ben, peut-être qu'on pourrait un peu se bouger pour savoir, par exemple, combien de carbone stocke un éleveur sur prairie par rapport à un mec qui a mis le vache dans un hangar, par exemple, et qu'ils ne soient pas traités de la même façon quand il s'agit de filer du pognon, quoi. Voilà, c'est un truc très con, mais ça peut le faire. Hein, si, sauf que on voit bien, là je fais mon naïf, mais on voit bien ce que ça veut dire, il est beaucoup plus facile de faire émerger des choses nouvelles que d'enterrer les vieilles. Or, les vieilles choses en question, c'est les marchands de tracteurs gros, les marchands de pneus, les marchands de charrues, les marchands de chimie, les marchands d'engrais, les marchands de gros et les traders qui prennent ce qui sort de l'agriculture française pour le colter à des marchés internationaux. On voit bien ce que ça donne aujourd'hui, c'est vachement chouette. Donc nous, on exporte 50% de ce qu'on produit et on importe 50% de ce qu'on bouffe. On est le roi des cons. On est dans un pays où on pourrait nourrir tout le monde en bio pour faire plaisir. On pourrait nourrir tout le monde en bio, même la moitié de l'Europe, rien qu'avec la France, je crois même un peu plus, si on voulait. Sauf que non, on se fait du blé pas panifiable pour le foutre sur des marchés internationaux, machin. Bon, donc ça, c'est à ce niveau-là que ça se réfléchit, l'agriculture, mais pas sur les pratiques. Les pratiques, elles sont à chacun et à chacune de ceux qui sont dedans, parce que ce sont les seuls à connaître leur biotope, leur écosystème suffisamment pour prendre ce qui est à leur disposition dans les retours d'expérience des autres et l'appliquer pour progresser.
Oui, mais c'est forcément aussi les former, puisqu'ils ont été formés.
Non, mais ils se forment, t'inquiète.
Ok.
T'inquiète. Formons-nous, nous.
Mais déjà, quand des agriculteurs te disent on peut pas se passer des pesticides ou on revendique...
Non, mais... un agriculteur qui te dit « je ne peux pas me passer des pesticides », il te parle du jour zéro, le jour où tu lui parles. Aujourd'hui, il ne peut pas se passer des pesticides. Voilà. Demain, il n'y en a plus. Il va en chier lourd, quoi. Mais il va faire comme les copains, il va aller voir comment on fait pour se passer des pesticides. Et d'ailleurs, si ça se trouve, il te dit « aujourd'hui, je ne peux pas me passer des pesticides », mais ça fait déjà un petit moment qu'il regarde comment font les voisins qui le font, hein. Et à mon avis, il commence déjà à réfléchir à comment il pourrait lancer ça chez lui avec une parcelle ou l'autre. Parce que faut pas s'imaginer, enfin moi j'en connais plein, des paysans, des agriculteurs de toutes sortes, des grands, des petits, des gros, des circuits courts, des courts-circuits, des circuits longs, des tout ce que tu veux. J'en connais plein, mais vraiment de toutes sortes. Il y en a pas un qui ait pas de problème. Et ils partent tous de leurs problèmes. Et c'est normal, il faut qu'ils partent de là. Voilà. Mais qu'il n'y a plus de sol, il faut qu'il travaille sur le fait de garder son sol. Il n'a rien à foutre de ne pas être chimique pour l'instant, il faut du sol. s'en fout d'avoir du caillou bio. Donc le mec, il veut du sol. Donc son problème, c'est d'abord le sol. Donc il faut qu'il mette de la matière organique comme un malade mental. Et après, il va réguler tout ça tranquillement, il va aider, il va se reconnecter un peu ce qui se passe. Et petit à petit, il va apprendre à se passer de la chimie. D'accord? Et à l'inverse, celui qui sait aujourd'hui se passer de la charrue qui est sur sol vivant, lui, pour désherber, il a besoin d'un coup de glypho parce que sinon il se fait déborder par son régras. Il va apprendre à se passer de chimie pour aller dégommer son régras. Il va faire pousser autre chose, un gazonnant, un truc par-dessus, qui va l'aider à contenir ce couvert et il pourra venir semer directement dans ce couvert sans avoir besoin de foutre un coup de glypho. D'accord? Ce qu'il faisait une fois tous les deux ans jusqu'à maintenant. Et qu'on lui reproche en disant, ouais, tu mets du glypho. Non. Et oh, c'est pas du Roundup Ready comme aux États-Unis, là. Faut réfléchir un peu quand on cause ça. Voilà. Et tout est raison. Tout est, au coup par coup. Faut les écouter, les agriculteurs. C'est eux qui ont raison de toute façon. Parce que c'est eux qui le font, le job. Donc il faut les écouter. Il faut les aider à aller là où ils veulent aller, eux. Faut pas penser à leur place, quoi. Voilà.
C'est ça le sens de ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un décide d'une politique publique, sur quelle base l'a décidé, alors qu'il n'y a pas deux exploitations différentes, qu'il n'y a pas deux territoires pareils, et que c'est pas la question d'être politiquement libéral ou autre chose, c'est une construction de ce qu'on essaie de dérouler qui fait que j'ai des doutes sur la capacité à quelqu'un d'orienter justement sans pénaliser une autre partie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, annoncer que les cultures ou les types de pratiques qui sont subventionnées aujourd'hui renonceraient à leur rémunération me semble compliqué. Et donc, d'une manière ou d'une autre, le sujet, en fait, l'objectif de cet entretien, c'est d'être positif à la fin. Donc, je sais pas comment on va l'être. Tu peux s'en sortir.
C'est pas forcément d'être positif.
Non, mais parce que, en fait, si je crois que si on est là, c'est parce que, en fait, c'est super excitant de voir aussi toutes les perspectives positives de nouvelles pratiques agricoles, de nouvelles pratiques de consommation, de nouvelles pratiques de distribution, et que au quotidien, pour se piquer d'une curiosité de curiosité pour un nouveau sujet comme l'agriculture ou qu'est-ce qu'il faut vraiment manger ou en tout cas se cultiver, il faut que ce soit joyeux, il faut que ce soit pour qu'il y ait des perspectives réelles et moi je crois qu'il y en a. Alors certes il y a un nuage sombre aussi à l'horizon, mais si on ne regarde pas ça, on ne s'en sort pas, on n'a pas l'énergie tous les matins d'aller essayer de faire quelque chose et de bouger petit à petit des choses là où on est, quoi. Et donc parler de politique, c'est extrêmement déprimant et c'est vrai que c'est plus parlant de d'évoquer des sujets comme tu le disais tout à l'heure de deux fermes côte à côte bio l'une et l'autre et de comprendre à ce niveau-là, et c'est forcément local. C'est forcément très proche.
C'est intime, en tout cas.
De l'individu, de l'agriculteur, de l'opérant, partout. Quelqu'un opère dans cette direction-là, plutôt qu'à un niveau politique qui est très, très, très loin de la réalité.
On a besoin de récupérer de l'intimité avec le vivant. Et ne serait-ce que parce que, voilà, maintenant, je suis absolument persuadé, après tout ce temps, il n'y a qu'une seule santé. Il n'y en a pas, il y a pas la petite santé de chacun, il y a une seule santé. Chaque fois qu'une plante est en mauvaise santé, ben, toi aussi, un peu. Et chaque fois qu'une bestiole est en mauvaise santé, ben, toi aussi, un peu. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, on le sent bien, les enjeux principaux, enfin, l'enjeu principal de notre façon de produire notre alimentation, c'est tout simplement notre survie sur la planète, mais notre survie agréable, hein. Je parle pas d'une survie en s'accrochant au crépi. Ça peut être tout à fait, la capacité du vivant à se régénérer, mais on n'a même pas idée. Il suffit de voir des photos de Tchernobyl, là. C'est absolument dingue, quoi. On peut imaginer des forêts qui nourrissent des gens. Et d'ailleurs, on ne fait pas que l'imaginer, puisque on vient de s'apercevoir il y a peu de temps que la forêt primaire de Bornéo, par exemple, qu'on appelle forêt primaire, parce que, soi-disant, la main de l'homme n'y a jamais mis le pied, comme disait l'autre, mais en fait, elle est cultivée depuis 7000 ans, sur des cycles de 70 ans, qui sont très très longs et qu'on ne voit pas, elle est cultivée par une poignée de gens qui sont là, qui font du poivre, du riz, de la gomme d'agar, des trucs comme ça, on ne s'en aperçoit même pas, et ils le font de façon très intelligente, au bord de leur voie de circulation, de leur petit sentier et tout, et donc ça fait 7000 ans que c'est comme ça, donc c'est une autre agriculture. Alors celle-là, elle nourrit pas autant de monde, évidemment, que que les champs de la bosse, mais entre les deux, il y a plein de façons d'occuper un écosystème en équilibre. Voilà. Et c'est ça, en fait, ce qui nous permet. C'est nous vivrons en équilibre ou nous ne vivrons pas.
Ce sera la conclusion de ce podcast. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Merci.
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 Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill d'Écotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.écotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable.